Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Grace Amzati Massandi.
Le porte-parole militaire de la MONUSCO donne des précisions sur l'incident sécuritaire de mercredi à Bali, en Ituri, où la patrouille de la MONUSCO a été attaquée par la milice Codeco. C'est ce qui était à la base d'un affrontement causant mort d'hommes et des blessés. Des précisions à l'ouverture de ce journal. Le chef de l'État s'engage à promouvoir la recherche scientifique et appelle le gouvernement souminois à s'y pencher. Félix Tshisekedi l'a dit ce jeudi à la clôture de la deuxième édition du Forum du génie scientifique congolais à Kinshasa. Notre invité est le vice-coordonnateur de la société civile dans la commune rurale de Mongwa, Loanituri. Chérubin Kukundilawa nous fait notamment l'état des lieux des écoles occupées par les déplacés alors que la rentrée scolaire pointe à l'horizon. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. Nous en savons un peu plus sur l'incident survenu mercredi dernier entre une patrouille de la MONUSCO et les rebelles du groupe Codeco. C'était autour du marché de Bali dans la province de l'Ituri. Pour rappel, la patrouille de la MONUSCO venue de la base d'Amé a été la cible d'une attaque de la part des Codeco dans cette entité déclenchant un affrontement violent. Un casquier bleu a été blessé alors que du côté des assaillants, un a été tué et deux autres blessés. Dans une interview accordée aujourd'hui à Radio Kapi à Goma, le porte-parole militaire de la MONUSCO revient sur cet incident. Le lieutenant-colonel Kedani Messa au micro de Bernard Denyangi.
Pendant que la force de la MONUSCO se déployait autour du marché de Bali et ses environs, elles ont été attaquées par des tirs d'armes légères de plusieurs éléments de la Codeco. En réponse, elles ont rapidement contré à cette embuscade, obligeant cette dernière à se replier vers l'est sans faire de victimes civiles. Un membre de Codeco a été tué et deux autres ont été blessés au combat. Cependant, il est à déplorer la blessure par balle à la jambe d'un casque bleu. Pour renforcer la présence de la MONUSCO et sécuriser la zone, deux autres hautes patrouilles de contrôle de zone ont été rapidement dépêchées depuis les bases d'Amé et Fataki, dont l'objectif est de sécuriser l'ensemble des environs du marché de Bali. Les forces de réserve ont été maintenues en vigilance accrue à l'égard des sites de personnes déplacées dans leur zone d'opération. 4 heures environ après l'affrontement initial, les éléments de la Codeco ont repris les hostilités à partir d'une position nouvellement établie au sommet de la colline près du marché. Après environ 30 minutes de combat intense, les forces de la MONUSCO ont réussi à reprendre le contrôle de cette colline, forçant les éléments de la Codeco à fuir vers le sud.
Et ici à Kinshasa, une soixantaine d'étudiants de l'Institut supérieur pédagogique ISP Gombe ont participé ce vendredi à un atelier organisé par la MONUSCO. Objectif, sensibiliser ces jeunes sur les dangers des discours de haine et de la désinformation, des fléaux qui touchent les universités congolaises. Parmi les intervenants, Christian Moleka, analyste politique et fondateur du Politoscope, une plateforme qui analyse la cyberviolence verbale en RDC. Pour lui, il est essentiel d'outiller les étudiants pour contrer les fausses informations et les discours violents sur les réseaux sociaux. Christian Moleka, dans ses propos recueillis par Poli Mousalia.
La jeunesse constitue la portion la plus importante de la population au Congo, mais également la portion la plus importante sur le numérique notamment. Et donc dans un environnement où le numérique prend de plus en plus de la place comme espace d'expression, si on veut toucher la portion la plus importante, il faut toucher les jeunes et donc les étudiants qui sont également les futurs décideurs. Parce qu'autant on forme la portion la plus importante, autant on prépare ceux qui demain prendront la relève pour la décision politique. C'est un milieu propice à la rumeur. L'environnement universitaire est marqué par les rumeurs de tout genre. C'est un milieu également où peuples peuvent circuler très facilement les idées liées à la fois au nombre à la fréquentation de sites, mais également à la circulation des idées. Donc si on veut gérer les espaces des idées, on doit gérer les universités qui sont également des lieux de grande fécondité de la création. Et donc si on sait féconder ces lieux-là, ça pourra participer à impacter plus grandement également la société.
Parlons de l'insécurité dans la commune de Fungurume, dans la province du Lualaba, où les cambriolages des maisons et des cas de tuerie sont signalés ça et là. Le dernier cas en date remonte à la nuit dernière. Un couple a été tué par des bandits armés. La société civile plaide pour que les autorités renforcent les mesures de sécurité, car à chaque tombée de la nuit, la peur gagne les habitants de cette commune qui ne savent pas qui sera la prochaine victime. On écoute Aimé Césaire Malaka, secrétaire rapporteur adjoint de la société civile Force Vive, commune de Fungurume, joint depuis les lieux du drame par Jean Gando.
Nous sommes préoccupés par rapport à la recrudescence de l'insécurité dans la commune de Fungurume et les cambriolages. Hier jeudi, le 29 vers 2h du matin, les bandits armés, non autrement identifiés, ont fait l'incursion dans une des maisons dans l'agglomération d'Impala. Ils ont tué le mari et sa femme. Le mari âgé de 56 ans et sa femme de 47 ans. Ils ont laissé 5 enfants. Nous déplorons ce comportement. Et ce que nous demandons aux autorités, c'est de sécuriser la population et leurs biens. Puisqu'il n'y a pas un mois qu'on avait encore tué un homme et sa femme, toujours dans l'agglomération d'Impala, au niveau des golfs, ils ont aussi laissé 3 enfants. Moi, je vous parle, les gens dorment paix. Les cambriolages exagèrent.
Nous l'avons dit dans les titres, le président de la République réaffirme son engagement à soutenir la recherche scientifique et promet de veiller à ce que ce secteur soit soutenu par des actions concrètes. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a dit ce jeudi au cours de la cérémonie de clôture de la 2e édition du Forum du génie scientifique congolais organisé à Kinshasa. Par ailleurs, il demande au gouvernement d'accompagner substantiellement la recherche scientifique et l'innovation technologique et d'envisager des allocations beaucoup plus ambitieuses pour ce secteur dans les années à venir. Les propos de Félix Tshisekedi ont été recueillis par Alain Rung-Mushinge.
Le développement de la recherche scientifique et technologique est le socle sur lequel repose tout progrès social et économique. C'est pourquoi je réaffirme aujourd'hui devant vous mon engagement indéfectible à soutenir la recherche scientifique par l'entremise du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Je veillerai à ce que ce secteur vital soit soutenu non seulement par des paroles, mais aussi par des actions concrètes. Il apparaît plus que nécessaire d'envisager la création d'une structure de coordination interministérielle qui aura pour mission de veiller à la mise en œuvre effective des politiques de recherche et d'innovation dans tous les domaines de la vie nationale. En ce qui concerne le financement de la recherche, il est impératif de revoir et de renforcer les mécanismes actuels.
Sachez aussi que le gouvernement dit consolider les stratégies pour maîtriser le circuit de dématérialisation des documents et procédures des exportations et importations à travers le guichet unique du commerce extérieur Ségus. L'objectif est d'en finir avec les tracasseries dont les opérateurs économiques sont victimes en RDC. L'évaluation des réformes est déjà engagée par l'État congolais avec des réalisations et des obstacles, mais aussi des perspectives, a été au centre de la première réunion du comité de supervision du guichet unique du commerce tenu hier ici à Kinshasa. On écoute les explications de Julien Paluku, ministre du commerce extérieur, dans cet extrait proposé pour nous par Alain Rung.
À tous les opérateurs économiques, à tous les peuples congolais, la volonté du gouvernement, c'est de dématérialiser les documents et les procédures pour que tout celui qui veut être importateur ou exportateur ne soit pas exposé à des tracasseries parce que simplement il a respecté la procédure requise. Ainsi, la douane, par exemple, ne devra plus traiter un document ou un dossier qui n'est pas passé par la procédure du guichet unique. Parce que si une marchandise ne passe pas par le guichet unique, comment devra-t-elle être alors dédouanée, étant donné qu'on n'a pas les renseignements sur son lieu d'embarcation? Parce que si on n'a pas les renseignements sur le lieu d'embarcation, eh bien, on peut se poser la question sur le contenu de cette marchandise. Et donc, pour éviter le cas de ce qui s'est passé en Zambie, nous devons tous revenir sur le guichet unique du commerce extérieur qui est l'outil du gouvernement nous permettant de maîtriser tous les circuits d'importation et d'exportation.
Parmi les participants à cette réunion figurent le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le ministre du commerce extérieur, le vice-ministre des finances et celui du budget, ainsi que les animateurs des structures techniques dont l'Office congolais de contrôle OCC, la Direction générale des douanes et assises DGDA, l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM et le guichet unique du commerce extérieur Ségus. Dans un autre chapitre, au Kassai oriental, 109 détenus, dont 5 femmes de la prison des Mbujimayi, ont bénéficié ce jeudi d'une liberté conditionnelle ordonnée par le ministre d'État, ministre de la Justice. Constant Mutamba a également, au cours de cette cérémonie, remis symboliquement 80 matelas à cette maison carcérale. Des détails avec Esther Ndalafina.
Les émotions fortes des retrouvailles avec les siens ont caractérisé la libération conditionnelle des détenus concernés par cette mesure. Thérèse Ndaye dit changer de comportement après 15 ans de détention.
Nous nous étions bagarrés au robinet et j'ai passé 15 ans en prison. J'abandonne les disputes et les conflits.
Eliane Ntumba, après une année passée en prison, recouvre sa liberté conditionnelle.
Je remercie pour cette libération. Je m'y attendais le moins. J'étais condamnée pour avoir donné deux versions de faits dans l'affaire des kidnappings.
Le vice-gouverneur en a profité pour prodiguer quelques conseils aux détenus libérés.
Je vous exhorte à faire preuve de probité morale en ne commettant plus les mêmes infractions ou d'autres susceptibles de vous rendre à nouveau justiciable. Vous allez réintégrer la vie sociale. Conduisez-vous en homme et femme avertis pour ne pas être récidiviste.
Construit pour 150 détenus, la prison centrale de Mbujimayi compte plus de 500 détenus, dont une centaine de condamnés. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
On enchaîne avec l'éducation. La synergie des syndicats des enseignants du Sud qui vous dit ne pas être disposé à reprendre le chemin de l'école le lundi 2 septembre. La décision a été prise hier au cours de l'Assemblée générale et a regroupé les trois principaux syndicats, à savoir SIECO, SINECAT et SINEB. Leur rapporteur, Marcelin Kimbumbu, explique au micro de Jean Kassami.
La synergie des syndicats des enseignants du Sud Kivu s'est réunie ce jeudi 29 août 2024 afin de suivre la restitution des conclusions des assises de la commission paritaire tenue récemment à Bibwa, à Kinshasa. Après restitution, les enseignants ont pris la décision suivante. Vu que les enseignants ne sont plus prêts à accepter les promesses irréalisables du gouvernement, à l'unanimité, les enseignants décident de rester à la maison jusqu'à ce que les engagements du gouvernement soient matérialisés, tout en exigeant l'amélioration de leur salaire. Pour les volets retraite, les enseignants soutiennent les engagements du gouvernement, notamment apurer les litiges des enseignants de 2021-2022, dont l'effectif est estimé à 3 070. Payer les allocations de fin de carrière des enseignants retraités depuis 1984. S'agissant de la santé, les enseignants du site Kivu exigent la subvention de l'État à la mutuelle de santé des enseignants du site Kivu.
Revenons un instant ici à Kinshasa pour parler des difficultés de déplacement pour les habitants de la commune de Kimbanseke. La route principale, à partir de l'arrêt Pascal sur le boulevard Lumumba jusqu'au quartier Kibunda Collège en passant par Mokali, est dans un état de délabrement très avancé. En outre, les habitants de ces coins de la capitale souffrent de l'insécurité. Reportage de Plamedi Mbiavanga.
Nous sommes au quartier Kibunda Collège. On se croirait dans un village. Pour atteindre les boulevards Lumumba, les habitants doivent débourser plus de 5000 francs sur la moto. Difficile de rouler, qu'on soit sur une moto ou dans un véhicule, car ce qui reste de macadam est envahi par des grosses quantités de sable. À partir de 20h, les motards majorent les prix de la course. Quand il fait noir, c'est la peur qui gagne les cœurs. Maman Malemo Annie, résidente de ces quartiers, explique leur calvaire.
Nous souffrons vraiment de ce côté pour le transport. Nous n'avons pas une longue distance pour arriver au boulevard. Mais pour quitter ici jusqu'à Pascal, nous payons 4000 francs ou 5000 sur la moto. Les véhicules passent très rarement. Si ça passe, nous payons 2000 francs par personne. Par rapport à la sécurité, à partir de 20h, les colonnes commencent leur opération.
Léonard Kaweja, habitant aussi ces coins, il interpelle le gouvernement sur l'état des routes et l'insécurité.
Avant, les Chinois sont passés par cette route pour la réhabilitation, mais depuis qu'ils sont partis, pas de suite favorable. Les autorités promettent, mais ne réagissent pas. Nous souffrons vraiment. Que l'État prenne des précautions, surtout sur l'insécurité. Prenez des mesures pour que la sécurité règne dans notre quartier.
Espérons que ce cri des cœurs sera entendu.
Actualité internationale.
Ce vendredi 30 août est la journée nationale de la libération au Gabon où la transition est à mi-chemin. Il y a un an tout juste, les militaires menés par le chef de la garde républicaine, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, renversaient Ali Bongo dans la foulée de l'annonce de sa réélection après un scrutin très contesté. La quasi-totalité de l'opposition et de la société civile ont rejoint les institutions en vue d'organiser ces élections prévues au plus tard en août 2025.
L'invité.
C'est Chérubin Kukundilawa. Il est le vice-coordonnateur de la société civile dans la commune rurale de Mumbalu, à 85 km de la ville de Bunia, territoire de Djougouani-Touri. Il déplore le fait qu'à quelques jours de la reprise des cours, de nombreux déplacés occupent encore des salles de classe de certaines écoles, mais aussi de la situation humanitaire et sécuritaire préoccupante qui risque, selon lui, d'entraver les activités scolaires qui débutent le lundi 2 septembre. Chérubin Kukundilawa s'entretient au téléphone avec Ezekiel Mouzalia.
Monsieur Chérubin Kukundilawa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
À quelques jours de la rentrée scolaire, quel est l'état des préparatifs dans des écoles à Mongoualou et sa périphérie?
Vraiment, les préparatifs sont presque un peu timides. La fréquentation des parents est vraiment timide pour inscrire les enfants. Dans certaines écoles que j'ai essayé de fréquenter, nous avons trouvé, il y a des écoles où on a inscrit que dans des cinquantaines d'élèves, alors que les inscriptions venaient de durer plus de 2 semaines. Et dans d'autres écoles, le mouvement qui a été un peu fréquent, les parents qui ont essayé de fréquenter, c'était juste pour retirer les dossiers et les dossiers de leurs enfants et aller inscrire les enfants en dehors de la commune de Mongoualou. Voilà au moins ce que nous avons pu constater. Et autre chose que nous avons constaté, il y a des écoles qui fonctionnent en déplacement dans la commune rurale de Mongoualou, dont notamment le cas de Epe Kombo Kombo de Lodjo, Epe Andissa, qui fonctionne dans la commune de Mongoualou depuis l'année scolaire 2021-2022. Il y a Epe Beba qui a fermé complètement sa porte.
Quand vous parlez des écoles qui vont fonctionner en déplacement et d'autres qui n'existaient plus, comment se comportent les gestionnaires de ces écoles?
Le responsable de ces écoles sont vraiment dans l'inquiétude. Le camp, par exemple, de Epe Beba qui a complètement fermé. Or, c'était une école déjà mécanisée et le cas aussi de Epe Kombo Kombo de Lodjo, école mécanisée. Le responsable, il me dit avoir inscrit 50 élèves jusqu'à présent, alors que dans 3 jours, c'est la rentrée ou dans 5 jours. Le nombre d'élèves qu'il reçoit par rapport au personnel qu'il a, il est en train de regretter qu'il risque même de ne pas organiser certaines classes, vu le nombre des enfants qu'il est en train de recevoir. Et ils expriment vraiment un sentiment de désolation. Et leur souhait, ce serait de retourner fonctionner dans leur milieu habituel, mais ils sont contraints à l'activisme des groupes armés, ce qui les a aussi contraints de quitter leur milieu habituel.
La région minière de Mongoualou connaît une situation humanitaire et sécuritaire très préoccupante. Cette situation n'affecte-t-elle pas les préparatifs de la rentrée scolaire?
Bien sûr que oui, d'autant plus que nous avons les cas échéants, l'école primaire EP3 Mongoualou, certaines de ces salles de classe a servi pour héberger des déplacés, mais aussi le centre de jeunes où l'EP Kombo Kombo va fonctionner a hébergé aussi dans certaines salles de déplacés. Et maintenant qu'il y aura rentrée, on ne sait pas comment il y aura cohabitation entre ces déplacés ainsi que les élèves. C'est ce qui pose un peu problème.
À ce jour, la région compte combien de déplacés et quelle lecture faites-vous de l'accroissement des besoins humanitaires face aux exigences d'une rentrée des classes apaisée et sécurisée dans la commune rurale de Mongoualou?
Aux dernières statistiques qui nous ont été balancées par le président qui coordonne au moins les activités des déplacés dans la commune, on avait plus de 2400 ménages qui étaient déplacés et dans le plus de 2400 ménages déplacés, ce qui fait au moins un total de 14 843 personnes, parmi lesquelles on a au moins 7 281 enfants. Alors, vous trouvez qu'avec ces statistiques de plus de 7 781 enfants, c'est quand même une statistique qui devrait faire l'attention des humanitaires. Nous ne pouvons pas arrêter de lancer des cris d'alarme, mais nous comptons aussi faire des plaidoyers du côté des humanitaires qu'ils pensent aussi à orienter leurs activités de l'autre côté, étant donné que nous, la zone minière fait aussi partie du territoire de Djougou et qui connaît aussi des urgences qui ont besoin d'être couvertes.
Dans ces conditions, comment rassurer les parents d'une reprise des cours apaisée, surtout que la menace des groupes armés est encore perceptible dans la périphérie de Mongoualou, notamment à Lodjo, Galaï et Plito, dans les secteurs de Banyalikilo?
Tout ce que nous pouvons dire, nous allons d'abord appeler la population qui est dans la commune ainsi que dans la périphérie de faire d'abord confiance à l'armée. Et tout ce que nous pouvons aussi ajouter, c'est que ces miliciens ont aussi des enfants et leurs enfants ont aussi droit à l'éducation. C'est qu'ils ont intérêt de rentrer dans l'esprit des actes d'engagement qu'ils ont eu à signer et de cesser avec les hostilités et permettre à ce que chacun puisse vaquer librement à ses activités que de priver ses enfants innocents qui sont ceux-là qui vont nous remplacer demain dans différentes activités, de les priver de leur droit fondamental qui est l'éducation.
Monsieur Chérubin Kukundilawa, vous êtes le vice-coordonnateur de la société civile de Mongoualou. Je vous dis merci.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
L'invité de la rédaction a été interrogé par Ezekiel Mouzalia. Par ici, nous mettons un terme à ce journal supervisé par Alain Rung et mis en onde par Pierre Diassinois. Merci à vous de l'avoir écouté et de le retrouver sur www.radiocapi.net.